Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal historique de la radio des Nations Unies. Avec la visite et l'allocution du pape François au siège de l'ONU à New York, mais aussi l'adoption des 17 objectifs de développement durable à mettre en œuvre d'ici 2030. Nous entendrons notamment Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, mais aussi son bras droit, Ian Eliasson, qui nous a accordé une interview. Et puis avec la Syrie et l'Ukraine, nous ferons un rapide tour d'horizon du reste de l'actualité. Le pape François s'est donc rendu aux Nations Unies à New York ce vendredi. Il est le cinquième évêque de Rome à visiter le siège de l'ONU. Après s'être réuni avec le secrétaire général, le dirigeant de l'Église catholique romaine s'est adressé au personnel de l'organisation et s'est incliné devant une gerbe au nom de ceux qui ont perdu la vie au service de l'ONU. Il s'est ensuite dirigé vers l'Assemblée générale au rythme des chants des enfants et des cris du personnel venu marquer sa présence avant de délivrer son message devant nombre de chefs d'État et de gouvernement réunis dans la grande salle de l'Assemblée générale. Général Christina Silvero.
Dans son allocution devant l'Assemblée générale, le pape François a tout d'abord abordé les succès communs des États des Nations Unies au cours de ces 70 années. La résolution de nombreux conflits et les opérations de maintien de la paix, les avancées en matière de droit humanitaire, humain et international. Et il a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie au service de l'organisation.
Del Consejo de Seguridad.
Selon lui, l'expérience des 70 ans montre que la réforme et l'adaptation sont toujours nécessaires, telle la réforme du Conseil de sécurité et des organismes financiers pour qu'ils n'asphyxient pas les pays en développement. Le corps de son intervention a notamment été consacré à la lutte contre les inégalités et la pauvreté, à la préservation de l'environnement et à la paix. Pour le Saint-Père, l'environnement et le vaste monde des femmes et des hommes exclus sont les victimes d'un mauvais exercice du pouvoir. Face à cette injustice et à l'exclusion, l'agenda 2030 de développement durable est un signe important d'espérance, a souligné sa sainteté. Mais les engagements solennels ne suffiront pas. Les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes et immédiates et l'éducation, y compris celle des filles, est à la clé de la base de la réussite de l'agenda.
Ukraine, Syrie, Irak,
le pape a invité Libye, se charger des affaires internationales à un examen de conscience. L'Ukraine, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Soudan du Sud et la région des Grands Lacs sont autant de situations de crise où les gens se voient obligés de fuir, d'être soumis à l'esclavage ou de perdre la vie. Au-delà des intérêts, dans ces conflits, il y a des êtres humains concrets. Le monde dans lequel nous vivons souffre d'une fragmentation sociale qui finit par opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Si l'ONU peut être le gage d'un avenir sûr et heureux pour les futures générations, il faudra que les représentants des États cherchent sincèrement le service du bien commun.
Auparavant, Muntz Liketoff, le président de la 70e session de l'Assemblée générale, avait ouvert la séance en accueillant sa sainteté le pape François. Dans sa déclaration liminaire, il a résumé les problèmes majeurs de la société à l'heure actuelle, notamment en matière de division entre les peuples, les conflits et l'extrémisme violent. Muntz Liketoff a également indiqué les similitudes entre les valeurs chrétiennes défendues par le pape François et celles des Nations Unies. On l'écoute.
It's my great honor. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale. Pape François, évêque de Rome, chef de l'Église catholique et défenseur de la dignité humaine et des systèmes de survie sur la planète. Lorsque vous avez rappelé combien était inséparable le lien entre la préoccupation vis-à-vis de la nature, de la justice pour les pauvres, l'engagement vers la société et la paix, vous avez directement mentionné les trois piliers des Nations Unies et l'interconnectivité entre ces piliers. Tel est le message au cœur du nouveau et très ambitieux programme sur le développement durable pour 2030.
Le pape François, qui avait été aussi accueilli par le secrétaire général des Nations Unies, qui a souligné que c'était la première fois qu'un pape assistait à l'ouverture de l'Assemblée générale, tout en rendant hommage à la stature mondiale, mais aussi à l'humilité du Saint-Père. Ban Ki-moon.
Votre visite d'aujourd'hui coïncide avec l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable, mais ce n'est pas une coïncidence. Vous avez souvent parlé d'une écologie intégrale, celle qui englobe l'environnement, la croissance économique, la justice sociale et le bien-être humain. En d'autres termes, le développement durable pour notre maison commune. La récente encyclique Laudato Si définit le changement climatique comme un principal défi pour l'humanité et une question morale. Ce message est essentiel alors que nous nous approchons de la conférence conférence charnière sur le changement climatique organisée à Paris en décembre. À travers l'agenda mondial, sa sainteté est une voix retentissante de la conscience. Il a appelé à la compassion pour les réfugiés et les migrants du monde et à la solidarité avec les personnes victimes des conflits et la pauvreté.
Alors que le Saint-Père quittait la grande salle de l'Assemblée générale et le siège de l'ONU, un intermède de 10 minutes a permis notamment d'entendre des chanteurs, y compris la chanteuse Shakira chanter Imagine et Angélique Kidjo interpréter Africa.
Education is hope, education is peace. Thank you so much.
Les dirigeants mondiaux qui ont aussi entendu Malala Yousafzai, venue accompagnée de 193 autres jeunes, appelés les dirigeants à investir dans l'éducation. L'éducation n'est pas un privilège, l'éducation est un droit, l'éducation c'est l'espoir, l'éducation, a-t-elle souligné, c'est la paix. Fruit de plus de 2 années de consultations intenses, le nouveau programme de développement pour l'après 2015 qui a été adopté s'articule autour de 17 objectifs et pas moins de 169 cibles. Il se veut être une charte pour l'humanité et pour la planète au 21e siècle. Les ODD s'inscrivent dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement qui arriveront à échéance à la fin de l'année. Mais contrairement aux 8 OMD, les ODD ne se limitent pas aux seules thématiques sociales mais couvrent l'ensemble des dimensions du développement durable, à savoir la croissance économique, l'intégration sociale et la protection de l'environnement. Le point avec Isabelle Dupuis.
Première résolution adoptée par la 70e session de l'Assemblée générale, l'accord historique intitulé « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 » est défini comme un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité. Un accord qui souligne notamment que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes constitue non seulement le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, mais est aussi une condition indispensable au développement durable. D'une portée sans précédent, le nouveau programme de développement est aussi le reflet de la résolution des États membres à prendre soin de la planète et à la préserver. Par son biais, les dirigeants se disent déterminés à prendre les mesures audacieuses qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable marquée par la résilience et à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Les plus défavorisés seront d'ailleurs les premiers que les dirigeants s'efforceront d'aider. C'est la première fois que les dirigeants du monde s'engagent à mettre en œuvre collectivement un programme d'action en faveur du développement aussi vaste et universel et fondé sur une coopération gagnant-gagnant pour tous les pays et toutes les régions du monde. Les 17 ODD et leurs 169 cibles entreront en vigueur le 1er janvier 2016 et orienteront les décisions que les États membres prendront au cours des 15 prochaines années.
Des objectifs de développement durable qui ont été adoptés donc à l'unanimité après l'intervention du secrétaire général Ban Ki-moon qui avait exhorté la communauté internationale à ne pas perdre de temps.
Nous devons entrer du bon pied dans l'ère nouvelle. Je demande à tous les gouvernements d'adopter à Paris, en décembre, un accord sur le climat qui soit solide et universel. Je constate avec satisfaction que plusieurs pays sont déjà en train d'intégrer le programme 2030 dans leur stratégie nationale de développement. Mais nul ne peut réussir seul. Tous les intéressés doivent être mobilisés comme pour l'élaboration du programme. Nous devons collaborer avec les parlements et les collectivités locales et travailler avec les villes comme avec les zones rurales. Nous devons mobiliser les entreprises et leurs dirigeants. Nous devons associer la société civile à nos politiques et lui donner la possibilité de nous demander des comptes. Et surtout, nous devons nous mettre au travail tout de suite.
Le reste de l'actualité en bref dans le monde, plus de 429 000 Syriens ont demandé l'asile en Europe et le récent afflux de réfugiés originaires du Moyen-Orient ne fera qu'accentuer cette pression dans la mesure où le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à 8 000 personnes le nombre de réfugiés qui débarquent quotidiennement en Europe. Et les raisons invoquées par les Syriens pour justifier cet exil en Europe vont de l'intensification des combats aux dures conditions de vie sur place. Alpha Diallo.
L'intensification de la guerre civile et la dégradation de la situation humanitaire sur le terrain ont finalement poussé des millions de Syriens à l'exil. Ils sont plus de 4 millions à se réfugier dans les pays voisins au Liban, en Turquie, en Irak ou en Jordanie. Et désormais, une petite partie se dirige vers l'Europe. Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en France.
Il s'agit majoritairement de personnes qui fuient des conflits ou des persécutions, qui fuient la Syrie, mais également l'Afghanistan ou l'Irak, ou qui fuient des persécutions en Érythrée.
La majorité des réfugiés qui débarquent en Grèce proviennent de régions où sévissent des conflits comme la Syrie. Ils fuient tout simplement afin de rester en vie, une façon pour le HCR de rappeler qu'il n'y aurait pas eu de crise de réfugiés sans une guerre sanglante et la mort de milliers de civils. Et la majorité de ceux qui tentent la périlleuse traversée de la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe sont Syriens. Des Syriens passés par la Turquie voisine avant de poursuivre le chemin européen par la Grèce. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Et puis l'ONU a condamné la décision prise cette semaine par les autorités de fait de deux villes de l'est de l'Ukraine de suspendre les opérations humanitaires et pour l'une d'entre elles d'expulser le personnel de l'ONU et des ONG internationales présents sur le terrain. Tsige Tiferao.
La suspension de presque tous les programmes humanitaires à Luhansk et Donetsk depuis la mi-juillet 2015 met de nombreuses vies en danger et contribue à la précarisation d'environ 3 millions de personnes dans la région à l'approche de l'hiver, a déploré le chef de l'humanitaire Stephen O'Brien, soulignant que près de 16 000 tonnes d'aide humanitaire sont actuellement en attente de pouvoir être livrées. En outre, les hôpitaux sont dans l'incapacité de fonctionner et la vie de nombreux patients est en péril en raison de l'absence de médicaments essentiels tels que l'insuline et les vaccins contre la tuberculose. De plus, environ 150 000 personnes ne peuvent recevoir les distributions alimentaires mensuelles et 1,3 million ont un accès à l'eau menacé. Le maintien du personnel humanitaire sur place est d'autant plus essentiel que les personnes vivant dans les zones touchées par le conflit ont été sévèrement affectées par les destructions de logements et d'infrastructures ainsi que par la dégradation des services.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et l'adoption des objectifs de développement durable, 17 objectifs à accomplir d'ici 2030. 15 années pour faire bouger les lignes, comme le souligne le vice-secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, qui a contribué à l'adoption des ODD et qui met en avant le rôle de ces marqueurs du développement.
Ils sont très importants parce qu'ils reflètent les réalités du monde. Il faut maintenant avoir une mobilisation d'énergie, pas seulement dans la direction du développement classique, mais il faut adopter une position plus holistique, plus compréhensive, parce que le développement aujourd'hui, c'est l'industrialisation, la migration, les changements de population, et bien sûr, il faut toujours revenir à la question de notre environnement et la lutte contre les changements du climat.
En quoi justement ces ODD, ces objectifs de développement durable, sont-ils différents des objectifs du millénaire pour le développement ?
Nous avons, pendant les 3 années qui en sont passées, avoir une transformation de notre analyse de développement. Développement, c'est quelque chose qui est tout à fait universel. Les obligations, les promesses pour un environnement plus sain est bien sûr quelque chose de tout à fait nouveau, mais il y a aussi tant de facteurs nouveaux dans le paysage mondial. Vous avez la migration, vous avez les mouvements dans la direction de ville, l'urbanisation, vous avez le change de technologie. C'est un processus qui nous force de travailler ensemble. Je dis toujours qu'il faut avoir une analyse horizontale et pas verticale. Si on travaille verticalement, on reste dans le secteur spécifique, mais les réalités du monde aujourd'hui sont si liées et donc il faut avoir une politique compréhensive pour aller vraiment dans la direction, la bonne direction pour 2030.
Justement, concernant ces objectifs, je pense notamment au 6e relatif à l'eau et à l'assainissement, comment on peut concrétiser ces objectifs et en quoi donc notamment cet objectif est si important ?
Les questions de l'eau et les conditions pour l'assainissement sont tout à fait fondamentales pour la lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai travaillé avec ces questions pendant 20 ans. Et j'ai vu les effets positifs pour la mortalité des enfants, la situation pour la santé maternelle, pour l'éducation, pour les relations entre hommes et femmes, et bien sûr pour la pauvreté. Si on travaille bien avec ce secteur, on a des effets très dynamiques dans d'autres directions. Et aussi, il y a un autre facteur dans le monde aujourd'hui, et c'est le fait que l'eau, ou l'absence de l'eau plutôt, pourrait être une raison de conflits. Il y a une compétition qui pourrait aller dans la direction de même à la fin guerre. Et donc, il faut travailler pour les solutions durables, pour partager les ressources d'eau. Sinon, nous aurons, avec les tendances de population, des grandes difficultés. Donc, il faut voir ce défi, pas seulement économique et social, mais aussi politique.
Voilà, et c'est avec Yann Eliasson, le numéro 2 de l'ONU, que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.